Deuxième argument de Moïse, mais quel est son nom? Quel est le nom de Dieu, en fait, hein? Et donc, Dieu va répondre, bah, à toi, je révèle mon nom qui est Eyé Asher Eyé. Je suis celui qui est. Je vous l'ai mis en hébreu, j'ai trouvé en phonétique. Et je me dis que si on l'apprend comme ça, en phonétique, il doit y avoir une onction peut-être particulière à dire de la même manière, comme quand on dit Abba. Et là, il doit fondre le Père, hein, vous voyez. Donc, je le dis comme ça. Et pour le peuple, par contre, c'est un peu trop saint pour eux, ce nom-là. Donc, tu leur diras, Eyé m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Et donc ça, c'est une miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire, c'est comme l'enfant qui n'a pas voulu écouter ce qu'on lui a demandé. Et puis, on lui dit, bah, je t'avais dit de mettre tes chaussons. Là, tu as marché sur une punaise et voilà, tu saignes. Et nous, on va quand même le prendre dans les bras en lui faisant un câlin. Et ça, c'est un peu ce que fait le Père en donnant son nom. Il donne un sucre d'orge, il donne quelque chose d'extraordinaire. Et dans un deuxième temps, on dit à l'enfant, bah, puisque c'est ça, tu vas avoir mal pendant les 3 jours qui viennent et je devrais te désinfecter 2 fois par jour. Voilà. Et ça, c'est la justice qui s'applique pour que l'enfant y réfléchisse et puis qu'il avance dans sa vie. Et là, c'est pareil. Moi, ce que j'ai mis en parallèle avec ça, c'est Pharaon. Dans la suite de la joute oratoire entre Moïse, Aaron et Pharaon, Pharaon qui dit « Moïse et Aaron, pourquoi hérissez-vous le peuple en ces travaux ?» Enfin, la conséquence de Moïse qui dénigre un peu le nom de Dieu, qui dit « Est-ce que le nom de Dieu est vraiment puissant ?» Et ben c'est Pharaon qui met le sujet sur le fait que ce que demande Moïse et Aaron, c'est de leur propre volonté. C'est pas un Dieu qui les envoie, la transcendance. C'est Moïse et Aaron qui ont décidé de faire leur petit complot. Et ils transforment le truc en faisant croire que c'est une volonté humaine qui les guide. Et il est en train d'atténuer le truc, en train de dire, bah, un peu comme les Juifs qui disaient, un certain Judas s'est levé, le Judas le Galiléen s'est levé, il a fait une révolte et on l'a écrasé. Et là, on voit, c'est un peu le truc humain, le groupe humain, et on est en train de minimiser le foyer. Et en fait, aujourd'hui, dans. Le discours ambiant, c'est un des éléments qui nous est opposé. C'est finalement l'Église, elle vient d'elle-même, quoi. Elle est autoproclamée. Les papes, ils décident de tout. Et c'est une manière de réduire ce projet divin à un projet strictement humain. Et donc nous, ce qu'on peut faire, c'est cultiver un attachement au nom de Dieu, au nom de Père, de Jésus, et le dire avec une grande foi. Parce que du coup, dans ces moments où les gens nous opposent, en gros, tout ça, ce ne sont que des choses humaines et des inventions humaines, on aura la force qu'il faut, je pense, dans la mission, pour pouvoir peut-être avoir les bons arguments, avoir la juste attitude en face de ces gens qui ramènent tout à du matériel et à des décisions un peu minables, humaines, quoi. Voilà. Donc deuxième, de ternir le nom du Seigneur et du coup de ramener tout à des décisions humaines. La troisième objection de Moïse est un petit peu plus loin. C'est au chapitre 4, verset 1. Alors il commence en disant, mais voilà, ils ne me croiront pas, et ils n'entendront pas ma voix, et ils diront, le Seigneur n'était pas apparu avec un point d'exclamation. Alors là, le Seigneur a eu beaucoup de patience, il lui dit, qu'as-tu à la main? Un bâton? Il y a un côté un peu. Enfin, je sais pas, il avait 80 ans, je crois, à ce moment-là, Moïse. C'est drôle. Bon. Qu'as-tu à la main? Un bâton. Donc, le bâton, c'est toute l'autorité qui lui reste. Hein, parce que vous vous rappelez, il a tout perdu. Il était le second de Pharaon. Puis, il a tué un Égyptien. Et donc, il a eu son temps de désert. Pendant 40 ans, il a été berger. Le Seigneur souvent prépare. Des personnes qui ont des grandes missions en leur demandant de s'occuper des brebis parce qu'ils regardent comment ils s'occupent des brebis et ensuite il leur dit bah, paie mon troupeau. Voilà, c'est comme Pierre qui s'est occupé des 12 apôtres et à la fin il lui a dit paie mon troupeau, paie mes brebis, paie mes agneaux et il lui a confié toute l'église. Vous voyez, il y a eu... Et bien là c'est pareil avec Moïse. Et donc c'est toute l'autorité qui lui reste, le bâton, donc c'est peut-être toutes ces forces humaines qui lui restent, tout ce qui lui reste sur lequel il peut s'appuyer, c'est son bâton. Et Dieu lui dit, bah, jette-le et tu vas te rendre compte que même c'est ce sur quoi tu t'appuies, regarde, ça devient un serpent. C'est même ça, tu devrais t'appuyer sur moi et pas uniquement sur le bâton. Le bâton c'est bien, mais c'est pas ton seul appui. Donc du coup, Moïse se retrouve face à lui-même avec le bâton. Il est obligé finalement de. Dieu lui dit, prends le serpent par la queue, et donc Dieu lui dit même, bah, tu vas continuer à utiliser le bâton, en faisant un acte de foi surnaturel, parce que prendre un serpent par la queue, c'est quand même pas évident. Surtout si c'était un serpent venimeux, je sais pas quel serpent c'était. Avec, vous savez, qui lève la tête comme ça, avec les x-x-x comme ça. Bah, moi, je l'imagine bien comme ça. Bah, tu vas prendre ta faiblesse par la main, tu vas prendre le taureau par les cornes, et il va redevenir un bâton, et avec ça, tu vas faire des signes, vous voyez? On retrouve le poisson de Jonas où bah, puisque c'est ça, le cachot qui t'a été donné pour réfléchir, et bah, je vais m'en servir pour convertir les gens de Ninive, vous voyez? Voilà. Moi, ma faiblesse qui est que je refuse de faire X ou Y et que je me réfugie dans allez, je vais boire, par exemple. Et ben en fait, peut-être que mon témoignage sur comment je suis sorti de l'alcoolisme, c'est ça qui va convertir en masse des personnes, quoi. Voilà, je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres, on peut. Voilà, mon refus, là où je me réfugie, ma faiblesse, et ben le Seigneur, il va faire exprès de dire, tiens, tu vas voir, je vais utiliser ça pour ta mission, quoi. C'est une des caractéristiques. Et il le saisit. Là, c'est un mot en hébreu, c'est chazak. Ça veut dire fort, rigide, dur. Donc la faiblesse de Moïse, c'est d'être dur de cœur. C'est d'avoir le cœur fermé. Et ensuite, donc, il y a la main de Moïse qui devient lépreuse, puis saine, et il y a l'eau changée en sang. Alors, je ne vais pas détailler, mais on pourrait dire beaucoup de choses dessus. Donc, finalement, Dieu montre à Moïse ses propres faiblesses. Et ça, c'est un signe de miséricorde. Voilà. C'est comme les parents qui prennent le temps à expliquer à un enfant bah, pourquoi finalement la maîtresse t'a grondé, et la fois d'après, tu seras beaucoup plus armé maintenant qu'on a parlé de cette chose-là. Voilà, c'est la miséricorde qui s'exprime. C'est très beau parce que du coup, il avance, il se rend compte, la main de Moïse aussi. La main, c'est l'agir qui devient lépreuse. Bah, regarde, comme ce que tu fais, c'est complètement pourri, c'est vérolé si tu ne t'appuies pas sur moi. Voilà, ton agir, les actions que tu fais sont très imparfaites si tu ne les appuies pas sur moi. Mais si tu remets la main dans ton sein et que tu la ressors, elle va redevenir saine. Si tu t'appuies sur ma grâce, tu vas pouvoir avoir une action qui percute parce qu'elle va être sainte, elle va être sanctifiée par moi. Et l'eau changée en sang, l'eau c'est aussi un appui humain en fait. Hein. Quand on va chercher de l'eau ailleurs, qu'en recueillant la pluie du Seigneur, bah, elle se transforme en sang parce qu'elle devient imbuvable. Elle nous dégoûte au bout d'un moment parce qu'on je vais manger du chocolat parce que je vais au lieu de dire Seigneur, je t'offre cette journée, j'ai le droit de manger du chocolat, mais au-delà d'une tablette et demie, on peut admettre que j'ai été gourmand. Et donc il y a un moment, je vais être dégoûté du chocolat. Bah, le sang c'est ça. L'eau changée en sang, c'est l'appui humain que j'ai eu pour me consoler d'être triste ou en colère, eh ben, va me dégoûter à un moment. C'est ça l'eau changée en sang. Et on retrouve ça avec le pharaon, avec le Nil. Il s'appuie sur le Nil et du coup, le Nil est changé en sang. Ils ne me croiront pas. La justice, l'acte de justice qu'ils vont devoir supporter, c'est déjà Aaron parle et fait les signes et le peuple croit. C'est-à-dire que le peuple, il croit direct. Et c'est une humiliation pour Moïse qui, enfin c'est humiliant de se dire, en gros, j'ai pas eu foi alors qu'il s'est converti tout de suite, quoi. Moi, j'ai fait un gros blocage dans ma vie spirituelle, dans ma mission. Et il aurait juste suffi que je dise oui, et puis il aurait cru pareil, quoi. Mais au moins, j'aurais pas été humilié de intérieurement de dire pardon, Seigneur, j'ai vraiment été nul de pas croire, de dire ils ne me croiront pas. Et en plus, il dit, mais voilà, il y a les points d'exclamation, j'imagine bien le bonhomme avec sa barbe de 80 ans, mais voilà, avec son bâton, pas content. Faut s'imaginer. Et il y a cette épreuve qu'impose Pharaon. Vous savez, il dit, mais puisque c'est ça, vous me demandez de partir, vous allez devoir faire plus de briques. Et rappelez-vous, il faut de la paille aussi pour fabriquer le torchis égyptien. Et avant, c'était les Égyptiens qui vous fournissaient la paille. Et maintenant, vous aurez le double de travail, parce que je vais dire aux Égyptiens, bah, vous appuyez sur vous. Vous appuyez sur les Hébreux pour qu'ils fassent tout, quoi. Et ramasser la paille et mouler les briques avec l'argile et la paille. Et donc, vous payerez tout le boulot. Donc, la méchanceté de Pharaon va déstabiliser l'ensemble du peuple parce que ça va créer une inégalité entre les Égyptiens et les Israélites. C'est comme si notre président disait désormais c'est les chrétiens qui cotiseront le triple de leur retraite pour tout le monde. Ça va créer une inégalité parce qu'il y a plein de gens qui vont dire bah ouais, mais moi, mon travail il sert à rien et moi, mais les chrétiens m'en veulent alors que j'ai rien fait. Vous voyez, il y a une sorte de. On crée un déséquilibre, une instabilité dans la paix sociale. Voilà. Il crée ça Pharaon par méchanceté. Parce qu'il refuse Dieu et la paille. Alors pour moi, la paille, je l'ai mis en lien avec la vue encore, parce que la paille, c'est ce qui masque la vue. Et c'est Jésus qui nous révèle ça. La paille, c'est la futilité dans l'Ancien Testament. C'est les méchants seront comme la paille balayée par le vent. C'est toutes les futilités. Donc, Pharaon leur met devant les yeux la paille, c'est-à-dire que Dieu, dans son projet, veut faire sortir le peuple pour l'emmener. Parce que notre mission, c'est ça, c'est de délivrer des personnes de l'athéisme, de l'incrédulité, de la misère, de la tristesse, de voilà, et de les emmener vers les sources d'eau vive, vers la vision de Dieu, parce que c'est ça le but. Et Pharaon, donc le démon qui se bat contre nous, ou les forces hostiles, vont faire en sorte de nous mettre des futilités devant les yeux, de nous mettre des choses inutiles qui vont nous retarder, de nous dire bah, prenez du temps pour les loisirs, prenez du temps, enfin les futilités aujourd'hui c'est ça. Et la paille, ça c'est Jésus qui, une interprétation grâce au Christ, c'est aussi les défauts des autres, qui sont aussi des futilités. Si je me base sur les futilités de Sandra, pour juger Sandra, en quelque sorte, je me base sur des futilités qui sont des imperfections qu'elle a, admettons, ou que moi je perçois chez elle, alors qu'elle est autre chose que ses propres imperfections. Mais un des combats dans la mission qu'on va rencontrer, et ça fait partie de cette troisième épreuve, c'est le malin va nous montrer de manière très claire les faiblesses des autres. Parce qu'on va collaborer avec d'autres. Bah, par exemple, on va collaborer sur la liturgie de la parole, et puis comme par hasard va m'apparaître l'imperfection du responsable de la liturgie de la parole qui n'a pas fait ci ou ça, et ça va m'énerver, alors que moi j'ai voulu rendre un service. C'est un exemple, c'est pas vrai, hein. Je l'ai même pas vécu, donc je me permets. Non mais, et ça c'est la paille en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai présumé que les enfants de la liturgie de la parole, ils allaient avoir du mal à écouter, donc j'ai eu du mal à me mettre en route, mais je l'ai fait quand même en râlant un peu, et du coup... il m'est présenté en faiblesse, peut-être une apparente faiblesse, parce que c'est même pas une vraie faiblesse, si ça se trouve, c'est un concours de circonstances qui m'a fait croire qu'il avait tel défaut, alors que ce n'est que de la paille. Voyez, alors que moi, j'ai une poutre dans mon œil qui m'empêche de voir mon frère en vérité. Ça, c'est sur la paille. C'est juste sur le « ils ne croiront pas », moi, que je mets en lien avec « le peuple croit » et avec la paille qui bouche la vue. Deuxième chose dans les conséquences de justice, je dirais, c'est les scribes et les fils d'Israël qui frappent Moïse et Aaron et qui disent c'est à cause de vous qu'il est arrivé tout ça, parce qu'on nous a mis sur le dos de faire de la paille, voilà, on pue, c'est-à-dire que le pharaon et les serviteurs ne peuvent plus nous sentir, et vous lui avez donné une épée pour nous tuer. Non, en fait, ça c'est la fin de la parenthèse qu'on avait au-dessus. Vous savez, quand Moïse il dit ah ouais, mais ça c'est parce que le Seigneur il va nous dégommer par l'épée, bah, la conséquence elle est là. C'est pour ça que je l'ai mise là, il faut mettre une petite flèche sur vos feuilles. Ça, c'est, en fait, c'est pas dans le troisième, mais comme ça s'insère en 5-20. Et puis, si on revient un peu en arrière, là, maintenant, je me base sur l'hébreu chazak, qui veut dire fort, rigide, vous savez, il saisit le bâton, saisir, chazak. Et donc, je vous disais, il y a des sites internet qui montrent les mots hébreux, et ça permet de cliquer et de voir toutes les fois où il y a des mots, nous, qui nous échappent complètement, parce que c'est pas les mêmes mots dans nos Bibles. Et donc, j'endurcirai le cœur de Pharaon, c'est le même mot, en fait, c'est dur, voilà. Eh ben Moïse s'appuyait, il avait une dureté de cœur, eh ben il va rencontrer la dureté de cœur de Pharaon. Et ça va être pareil, hein, endurcissement successif, les différentes plaies, et si tu persistes à retenir mon peuple, c'est-à-dire à faire preuve de dureté envers mon peuple, c'est ça que dit l'hébreu en fait, si on traduit vraiment le chazak, ça veut dire dur, les Égyptiens pressèrent le peuple de partir. C'est-à-dire que là on a l'inverse, Dieu les oppresse tellement, rend les conditions des Égyptiens dures également, ils s'appuient sur cette dureté en disant, bah voilà, maintenant c'est les Égyptiens eux-mêmes qui vont durcir le ton pour vous chasser à coups de pied dans le derrière, parce qu'ils veulent plus de plaies. Et voilà, et c'est extraordinaire parce que Dieu finalement va agir quand même, et en s'appuyant toujours sur la dureté, et là il prend la faiblesse de Moïse pour contrebalancer tout et faire sortir à main armée, à bras étendus, le peuple d'Égypte.